L'Éternel est mon berger. Vous le croyez? De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Seigneur, tu es toujours avec nous. Pas à pas, il me conduit. Au bord des eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Chantons sa fidélité. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai.
Si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour. Son amour, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie.
Est-ce qu'il y a de la joie ce matin?
Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai.
Yahweh,
Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil.
Yahweh,
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 Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole. J'habiterai, oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Woo! Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai.
Yahweh,
Yahweh, Yahweh, tu fais briller ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Encore une fois,
Yahweh.
Jésus, alléluia. ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie ensemble.
Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom.
À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire.
De Dieu. Et c'est vraiment un chant qui nous invite à être dans la contemplation, à nous retrouver devant le trône de Dieu. C'est pas un chant sur nous, c'est pas un chant sur nos sentiments, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on veut de Dieu. Non, là on va lever les yeux vers Dieu. On va élever son nom, dire combien son nom est grand, combien son nom est glorieux. Et vous savez, quand on sera dans les cieux, on va chanter « Tu es saint, tu es saint ». Et bien ce matin, c'est ce qu'on va chanter ensemble. Ce matin, je crois qu'on peut vivre le ciel déjà maintenant. Et vraiment, je vous invite à prendre ce chant en vous disant « Voilà, Seigneur, moi je me joins aux anges et je vais déclarer ta sainteté ». C'est ce qu'on va faire ensemble ce matin.
Thank you.
entonne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout.
Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout.
Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es.
Vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau.
Nos voix résonnent.
Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout.
Jésus,
ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume. Au-dessus de tout,
et les anges acclament.
Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint.
Et tout ton peuple.
Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout.
Jésus, Jésus,
ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom
est Est-ce que tu le crois ce matin?
Est au-dessus de tout.
Jésus, le nom au-dessus de tout.
Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout.
Chante.
L'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint.
Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu.
Et tout ton peuple crie.
Sa voix ce matin. Est-ce qu'on peut dire à notre Dieu combien il est saint, combien nous l'adorons, combien il est grand? Oui, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Il y a des personnes dans cette salle qui se trouvent dans des situations inextricables. Il y a des personnes dans cette salle, elles se disent « Mais comment je vais faire? C'est pas possible, il n'y a rien à faire, cette situation, elle va perdurer, il n'y a pas de solution. » Jésus, Jésus est la solution. Juste abandonne-lui cette situation. Abandonne-lui tes problèmes. Élève son nom. Au lieu de regarder le problème, lève les yeux. Lève les yeux. Ton Dieu est déjà en action pour toi. Élève son nom ce matin.
Pour rester dans la même pensée, on vient de proclamer que Jésus est au-dessus de toute autorité et royauté. Je crois que notre Dieu est plus puissant que la maladie. Je crois que Dieu est plus puissant que le royaume des ténèbres. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un pas de foi ce matin alors qu'on est encore dans la louange. Peut-être qu'il y a des gens qui sont malades dans cette salle. J'aimerais simplement, alors qu'on ferme les yeux, peut-être mets ta main à une zone proche de là où tu es malade. Peut-être pour quelqu'un qui est lié par des addictions, par des choses qui le dépassent. On veut proclamer ce matin dans ce lieu que Jésus fait encore la différence en 2023. Alors qu'on est dans un état de prière, on ferme les yeux, on ne s'occupe pas à gauche et à droite. Mais qu'on élève le nom de celui qui est au-dessus de toute autorité ce matin. Il est capable de faire la différence encore aujourd'hui. Seigneur, on te prie, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui sont en proie, peut-être en bataille avec la maladie. Nous croyons que la maladie est capable de reculer au nom de Jésus ce matin. Nous croyons que tu es capable de faire venir la vie là où il y a la mort ce matin dans ce lieu au nom de Jésus. Nous croyons qu'il y a des gens qui sont enchaînés, en ténébrés ce matin. Il est le Dieu qui amène la liberté, la vraie liberté. Il est le Dieu qui brise les chaînes dans ce lieu, nous le croyons. Oh Seigneur, on te prie pour une atmosphère de foi ce matin dans ce lieu. Alors que ton peuple est rassemblé pour fixer les regards vers celui qui fait la différence encore aujourd'hui. T'es pas un Dieu qui est resté cloué sur la croix, mais tu es le Dieu vivant, ressuscité, celui qui a vaincu la mort. L'Esprit de Christ qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en nous, est avec nous ce matin. Seigneur, je te prie encore de souffler. Seigneur, qu'il y ait des libérations ce matin, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait de la guérison dans ce lieu encore. Seigneur, on ne veut pas s'habituer à lutter et puis à essayer de survivre, mais le Dieu qui donne la vie est au milieu de nous ce matin. Alors on te prie pour des situations encore présentes dans ce lieu, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Et le plus grand ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié. Jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint. Jamais Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es
dans ce moment de prière. On va prendre ce chant, l'encre de mon âme. Crois. Entends ces paroles pour toi. Je pense qu'il y a quelqu'un ce matin pour qui ce chant s'adresse. Qu'on puisse rester dans ce moment. Là, le Seigneur est là et on sent sa présence. Qu'on puisse rester focus sur le Seigneur.
Chaque saison, à tout moment, tu es là. Par temps de tristesse, tu es ma force, tu es là. Et dans ma faiblesse, je
sais que tu tiendras ma main. Je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre de mon âme. Ô Père, tu ne changes pas. Je t'adore. Encore une fois avec moi. Je garderai l'espoir. Je saisirai ta grâce. Je m'abandonne à toi. Je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre de mon âme. Ô Père, tu ne changes pas. Je t'adore, Père d'amour. Et je me rappellerai tes promesses à jamais. Ma force, mon bouclier, je peux compter sur toi. Tu es mon sauveur, mon espoir, mon ami. Ton amour infini a rempli mon cœur. Et je me rappellerai tes promesses à jamais. Ma force, mon bouclier, je peux compter sur toi.
On peut donner une dernière bonne main d'acclamation à Jésus ce matin. Et vraiment, on voudrait remercier aussi le groupe de louanges, parce que je sais pas pour vous, mais ils nous ont donné un échantillon du ciel ce matin. Pendant ces 30 minutes, merci pour votre cœur, pour votre passion aussi, pour conduire, pour nous conduire au plus près du cœur de Jésus. Quelques annonces ce matin avant de laisser la place à la parole. J'aimerais parler à vos estomacs. Il y a une vente de NEM aujourd'hui dans ce lieu. Si vous voulez bénir les actions culturelles de nos missionnaires, n'hésitez pas à aller dans le hall d'accueil à la fin de cette célébration. Vous pourrez repartir avec un bon plat pour ce midi. Si vous n'avez pas eu le temps, vous n'êtes pas trop prêt, que vous avez envie de passer du temps avec des amis chrétiens, ben vous pouvez aller encore chercher des NEM, réchauffer tout ça et vivre un bon moment. Ah oui, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'à partir de maintenant, vous pouvez payer à la carte bancaire pour toutes ces actions. Donc avant, on n'avait pas de lecteur, c'était un peu compliqué. Souvent, c'est rare qu'on a de l'espèce toujours sur nous. Mais aujourd'hui, si vous voulez des NEM et que vous avez une CB, c'est possible de le faire. Voilà, ça c'est les annonces. Après avoir parlé de nourrir notre corps, on va parler de nourrir notre âme et notre esprit. Je ne sais pas pour vous, mais cette rentrée, elle est intense. Elle est intense. Et souvent, ça peut nous faire perdre un peu de vue notre vie avec Christ parce qu'on est pris dans toutes sortes de choses. On a l'occasion à l'EPI de vivre des sessions de jeûne et de prière. Et notre session de jeûne et prière arrive du lundi 6 au vendredi 10 novembre à 19h30, ça, avec un final, avec une grosse soirée de louanges le samedi soir où on va continuer à chercher la vie de l'esprit. Des fois, on peut être débordé, pris par toutes sortes de choses et oublier que Dieu veut se servir de nous pour être des canaux de sa grâce. Ça sera l'occasion, dans ce jeûne et prière, de rechercher ce que Dieu veut faire au travers de chacun d'entre nous, mais aussi rechercher les bénédictions que Dieu veut nous accorder, parce qu'on croit qu'il se passe des choses dans le jeûne et la prière. Amen. Il y en a deux, trois qui croient que Dieu agit dans la prière. Moi, je crois qu'il agit. Moi, je crois qu'il est vivant. Voilà, en parlant de prière, on va pouvoir prier pour deux services qui vont débuter à partir d'aujourd'hui. Et j'aimerais inviter Thérèse, si tu es quelque part. Est-ce que Thérèse est là ce matin? Oui, elle est là. Tu peux venir, s'il te plaît. C'est le lancement des groupes C'est Proactif. Vous savez, des fois, on peut se demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse au travers de mon travail? Est-ce que c'est juste métro, boulot, dodo, je vais au boulot pour gagner un petit peu d'argent, pour assurer ma retraite, etc.? Ou est-ce que, au travers du travail, Dieu veut se servir de moi comme un disciple de Jésus auprès de mes collègues, etc.? On a un cours qui va discuter de tout ça, qui va débuter. C'est Thérèse Chartier qui est la responsable de ce groupe. Et vraiment, on voudrait la bénir ce matin. Alors, on va demander à notre CS, en tout cas ceux qui sont présents ce matin, si vous pouvez vous approcher pour venir prier pour ce nouveau service qui va débuter. On veut croire que Dieu veut déverser sa vie au travers de nous, au sein de notre profession. Amen. Amen. Il y en a qui croient vraiment que vous allez au boulot juste pour survivre. Mais non, Dieu veut se servir de vous. Et j'aimerais demander à Anita, si tu veux bien prier pour Thérèse et la bénir en notre nom.
Seigneur, nous voulons te remercier d'abord parce que tu permets que dans notre église, il y ait différents ministères, services, appels, dons. Et déjà, nous te remercions pour cette réalité-là. Nous croyons que tu fais tout pour que nous puissions nous édifier en tant que tes enfants, que nous grandissions, que nous devions plus matures. Et nous voulons prier particulièrement pour notre sœur et puis pour tous ceux qui vont l'accompagner, pour les animateurs et ceux qui vont participer. Nous te remercions, Seigneur, pour cette nouvelle thématique dans notre Église sur le travail. Nous savons, toi, Seigneur, que tu nous as fait aussi pour être engagés dans tous les domaines de notre vie. Et nous te bénissons quand nous avons du travail. Et nous te bénissons quand nous te demandons, Seigneur, de permettre à ceux qui n'ont pas de travail d'en avoir. Nous voulons, Seigneur, que tu conduises notre sœur. Nous réclamons une onction particulière sur elle. Tu lui as déjà donné, nous en sommes persuadés. Mais nous voulons, en ton nom, l'Église avec nous, la bénir et dire qu'elle soit lâchée dans son ministère, dans son service, qu'elle soit relâchée et qu'elle puisse donner pleinement tout ce dont elle a besoin, ainsi que tous ceux qui contribueront et participeront à cette démarche. Seigneur, pour le tout, merci.
Amen. Merci Anita. On va rester dans un état d'esprit de prière puisque à partir de ce dimanche, pour ceux qui ont un besoin, qu'on prie pour eux, il y a un service qui va être mis en place et à partir de ce dimanche jusqu'au bout pour prendre du temps avec vous pour vos besoins. On croit que c'est important d'être une famille qui se soutient, qui se porte lorsqu'il y a des batailles. Et donc on va inviter l'équipe de prière et d'écoute à venir avec Yolande, notre responsable par intérim, mais qui a donné beaucoup de temps et de pour que ce département puisse partir. Vraiment, on voudrait pouvoir les bénir. On croit que Dieu se sert de nous pour manifester sa grâce et c'est notre série sur les dons spirituels. Alors on veut vraiment prier pour que il y ait des choses de l'ordre de l'esprit alors que cette équipe va prendre du temps avec vous pour vos besoins, pour que l'esprit se manifeste au travers de paroles de connaissance, de sagesse et juste même d'encouragement au travers de la prière. Et pour ça, on va demander à notre plus jeune pasteur de l'équipe, Michel Schneider, de prier. Allez-y, allez-y, allez-y. Si Michel, tu veux les envoyer, les bénir en notre nom.
Nous sommes tellement bénis, Seigneur, ici dans notre Église, tellement heureux de pouvoir accompagner ceux qui se lèvent et s'investissent pour toi et qui sont à l'écoute de ceux qui ont besoin de ta grâce. Nous sommes tous ensemble, Seigneur, et sommes tellement reconnaissants de pouvoir te servir avec notre cœur et avec les talents, les dons que tu nous as donné. Bénis toute cette équipe qui se met à ton service et au service de l'Église. Bénis, conduis, inspire, que ta sagesse les accompagne, que ton cœur les accompagne, alors qu'ils servent, qu'ils soient la manifestation, le reflet du cœur de Jésus pour son Église. Amen. Amen.
Pour rappel, si vous avez besoin de prière, ça se passe après nos célébrations à 11h30 dans l'espace écoute et prière qui se situe près du piano noir. Donc quand vous allez près du piano, vous pouvez avoir tout l'écoute dont vous avez besoin. Merci en tout cas pour votre cœur, pour l'épi, pour l'Église et pour Jésus et son royaume. Amen. Maintenant, on va inviter Jérôme. J'allais oublier un grand détail. On a quelqu'un qui veut vous parler ce matin et il nous a fait une petite vidéo pour ça, qui veut parler particulièrement aux hommes et on va lui laisser juste la place. Ça se passe sur l'écran.
Bonjour Église de l'Épi, ici Stéphane Hillard. J'ai un message spécial pour les hommes. Je serai avec vous la semaine prochaine pour une conférence incroyable de Iron Man. Alors inscrivez-vous. Si vous n'êtes pas inscrit, faites-le aujourd'hui. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas vous inscrire. On va avoir des temps extraordinaires ensemble, des temps de fraternité. On va pouvoir échanger, partager. Mais je crois aussi que Dieu veut nous défier, nous challenger. Alors ne manquez pas ça, inscrivez-vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous samedi prochain pour le Iron Man.
Yes, s'il vous plaît, les hommes qui avaient l'intention de venir, faites-le avant mercredi parce qu'on a de la crème fraîche, de la pâte à aller acheter pour votre repas. Alors s'il vous plaît, aidez-nous, vous pouvez vous inscrire, il y a encore des flyers au point d'accueil, il y a le QR code un peu partout, vous pouvez y aller. On vous attend, on attend vraiment un temps fort. Dans ce moment-là, on va être challengé et encouragé, particulièrement pour les hommes mariés. Il va y avoir vraiment un véritable challenge et vraiment je vais vous encourager à assister à ça. Maintenant Jérôme, c'est à toi. Est-ce qu'on peut prier pour Jérôme ? Seigneur, merci pour ce que tu as déposé sur le cœur de Jérôme ce matin, alors qu'on traite cette série sur les dons spirituels. On te prie, Seigneur, que ce que tu as mis sur son cœur puisse venir nous chercher, nous challenger à avoir soif de toi et à avoir soif d'être utile entre tes mains. Alors merci encore pour ta parole ce matin. Alors que les ténèbres sont en train de s'épaissir partout autour de nous, Seigneur, tu cherches des porteurs de lumière. Et nous voulons être, Seigneur, ces porteurs de lumière en ton nom, Jésus. Alors merci encore pour ce que tu as déposé sur son cœur. Amen. Amen.
Amen. Merci RP. Vous allez bien ? Combien sont heureux d'avoir eu un temps de louange comme ça où vraiment on peut adorer Dieu, prendre le temps. Yes, merci à toute l'équipe pour ça. On continue notre série que Mathieu a commencé il y a 2 semaines sur vivre les dons spirituels aujourd'hui. On est une église de Pentecôte, une église des assemblées de Dieu, puis on croit aux dons spirituels. Et Mathieu a partagé 4 boosters pour vivre les dons ensemble. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux dons spirituels eux-mêmes, et spécifiquement dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Okay ? Il y a différents dons dans Romains, dans Éphésiens, mais là, on veut vraiment être focus sur les chapitres 12, 13, 14 dans cette série. Et moi, je vais voir les versets 7 à 11, du chapitre 12. Et on ne va même pas voir tous les dons, parce que la vérité, c'est qu'on pourrait faire un message sur chaque don. Tellement il y a de choses à dire, tellement il y a de lectures à faire, tellement il y a de la richesse dans cette thématique-là. Donc on va voir ensemble 5 dons qui se retrouvent justement dans les versets 7 à 11. Mais avant ça, une petite annonce, la librairie qui se retrouve tous les dimanches dans le hall du point d'accueil, justement maintenant fait un focus particulier sur les séries qu'on fait ensemble. Donc en ce moment, ils vendent des livres sur les dons spirituels, sur le Saint-Esprit. Donc n'hésitez pas à y aller pour approfondir votre connaissance, pour aller un peu plus loin de ce que vous entendez déjà le dimanche. Il y a des super bons livres que nous on connaît, RP, Mathieu, tout ça, qu'on approuve. Et c'est vraiment des livres qui nous ont bénis et qui nous ont servi pour faire ces messages qu'on est en train de prêcher. Donc n'hésitez pas à y aller, là, il y a plein de bons livres. Une petite anecdote, lors de mon premier cours à l'école biblique, j'ai pris un cours d'histoire du christianisme, okay ? Et il y avait 2 volumes, il y avait histoire du christianisme 1, c'était de Jésus à la réforme, donc 1500 à peu près, et histoire du christianisme 2, de la réforme à aujourd'hui. Et dans ce cours-là, on avait un livre à lire qui s'appelait « Les loups dans la bergerie ». En fait, c'était l'histoire, l'expansion du christianisme au Québec. Et moi, j'arrive, puis j'ai 22 ans, puis je ne connais pas encore trop l'histoire du christianisme, comment on arrivait là. Je n'avais jamais entendu parler de la réforme, je ne savais pas ce que c'était, Martin Luther. Je confondais Martin Luther et Martin Luther King, juste pour vous dire à quel point j'étais loin de ce qui s'est passé réellement. Et puis là, dans le livre, qui explique un petit peu comment le christianisme a pris place en Europe, surtout parce que la réforme vient de l'Europe. Et il y a une photo qui apparaît sur l'arbre généalogique du mouvement protestantisme. Et il y a une photo qui va apparaître, normalement, qui est illisible, mais c'est fait exprès. Okay ? Il y a une photo avec l'arbre généalogique. Voilà, alors c'est illisible, c'est fait exprès. Tout en haut, je vais vous dire, même pour moi, j'arrive même pas à lire d'ici, c'est marqué Jésus-Christ, christianisme. Ensuite, il y a 1517, et là, il y a la séparation entre les catholiques et les protestants. Martin Luther, qui vient avec ses 95 thèses, qui veut dire au pape que l'église fait n'importe quoi, alors que le pape, en fait, était en accord avec ce que l'église faisait, et ça crée une division, et le protestantisme s'est créé. Ensuite, tout en haut à droite, le catholicisme continue, et tout à gauche, c'est le protestantisme. Et comme nous, on aime bien être unis, il y a des dizaines de mouvements qui vont se créer du protestantisme. Ok? Les baptistes, les anabaptistes, les méthodistes, les pipi, j'en passe, il y a des dizaines et des dizaines de mouvements. Et même encore aujourd'hui, ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait des « Ah, je suis pas d'accord, la Sainte-Seine, il faudrait prendre du jus de raisin au lieu du vin. » On va créer un mouvement pour ça. Bref, on aime créer des mouvements sur des petits détails. La chose qui est bien, c'est qu'on est d'accord sur les choses essentielles, sur le salut, sur qui est Jésus, sur qui est Dieu. Par contre, sur des choses qui sont un peu plus secondaires, on va différer. Et nous, si on peut remettre juste la photo, nous, on se trouve tout en bas à droite. Okay, tout en bas à droite, il y a un rectangle et le rectangle encore en bas à gauche, juste l'avant-dernier en bas à droite. C'est compliqué, mais juste pour vous dire qu'on est un petit rectangle parmi des dizaines. Okay, on a une centaine d'années, alors que la réforme date d'il y a 500 ans. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Parce que moi, mon éducation, c'était, il y a les ADD, qui sont de loin les meilleurs. Il y a les baptistes, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit, apparemment. Et il y a les catholiques, mais qui sont hérétiques de toute façon. Okay, c'est l'éducation que j'ai reçue, c'est ce que je pensais. Et j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, on n'est pas le centre du monde, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit pas le centre du monde, c'est pas possible. Et du coup, tout ça pour vous dire que, on a différentes pensées en fonction des mouvements sur c'est quoi les dons spirituels, comment les vivre. Il y en a qui ne croient plus, qu'on appelle les cessationnistes. Il y en a qui sont focus que sur ça, les charismatiques. Et nous, on se situe un petit peu entre les deux. Ils sont super importants. Et d'ailleurs, notre mouvement s'est créé à partir d'un réveil charismatique avec des dons surnaturels, parler en langue, guérison, miracle. Et ensemble, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on croit réellement et qu'est-ce que la Bible dit sur les dons spirituels. Je ne veux pas dire comment les vivre à l'épi, ça c'est Raymond Pierre qui va l'aborder dans quelques semaines, mais que sont-ils réellement? Et on va s'intéresser aussi au contexte de l'église de Corinthe, qui pourrait ressembler à des églises peut-être que l'on connaît. L'église de Corinthe était focus sur parler en langue, guérison, miracle. C'était vraiment, ils voulaient vivre ça, puis ils vivaient ça, et Dieu agissait à travers ça. Et c'était bon, et Dieu agit à travers ça, mais ils vont négliger d'autres dons que Paul va venir rappeler justement à l'Église. Et c'est une Église qui pourrait ressembler peut-être à la nôtre aussi. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que Paul dit pour vivre le don comme Dieu l'a voulu. Donc il va faire une introduction au don. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une liste exhaustive. C'est une liste que l'Église de Corinthe avait besoin à ce moment-là. Parce qu'il y a d'autres dons dans Romains, Éphésiens. Donc il ne faut pas dire, il y a ces dons-là et il n'y a rien d'autre. Non, Dieu agit et parle de la manière dont il veut. Toujours en accord avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Ok, il va étudier trois questions et on va les voir ensemble. Le pourquoi, le quoi et le comment. Le pourquoi, quel est le but des dons de l'Esprit et à quoi servent-ils? Le quoi, quels sont concrètement ces dons spirituels, ceux qu'on va voir ensemble? Et le comment les recevoir? Tout simplement. Le pourquoi, quel est le but des dons de l'Esprit? On va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu, qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Déjà, Paul veut mettre tout le monde d'accord. Il y a diversité de dons. Il n'y a pas que le parler en langue, il n'y a pas que les miracles, il n'y a pas que la guérison. Si c'était pertinent pour les gens de l'époque qui étaient focus dessus, il dit non, il y a d'autres dons qui sont peut-être moins spectaculaires, mais qui sont tout aussi importants que ceux qui sont spectaculaires. Donc diversité de dons. Il n'y a pas que le parler en langue, pas que la guérison. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Je répète, pour le bien de tous. Le but des dons, puis là vous allez peut-être prendre ce rappel comme quelque chose, ben oui, on le sait, le but des dons c'est le bien de tous. Mais combien de dons spirituels on a déjà entendu qui étaient pour régler des conflits? Combien de dons spirituels ont été dits pour critiquer ou pour manipuler la vision de l'Église? Ça arrive. Peut-être que ça arrivait ici aussi, je ne sais pas. Mais c'est arrivé dans plein d'églises. Nous, on rigole souvent avec des vidéos qu'on voit sur Internet avec l'équipe pastorale. On est tombé sur une vidéo où il y a deux pasteurs qui se font un battle de parler en langue. Et on ne savait pas s'il fallait rire ou pleurer. Okay, ils sont là, ils utilisent un don qui est censé t'édifier toi-même et puis édifier le corps s'il est interprété. Ils l'utilisent pour prendre autorité sur l'autre. Mais ils se trompent complètement de c'est quoi le but du don? Le but des dons de l'esprit, c'est le bien de tous, l'édification de l'Église, c'est d'encourager les autres, c'est d'instruire, c'est de reprendre, mais pour encourager et pour rapprocher de Jésus. Voici le but des dons. Et aussi, super important à le savoir, les dons ne sont pas signes de maturité, c'est le caractère qui l'est. Je répète, les dons ne sont pas signes de maturité, c'est le caractère qui l'est. L'Église de Corinthe vivait les dons, comme je l'ai dit, parlant langue, guérison, miracle. Et au chapitre 3, l'apôtre Paul va dire, j'ai voulu venir vous parler comme à des adultes, mais je ne pouvais pas. J'étais obligé de vous parler comme à des enfants qui marchent selon leur propre chair. Des gens remplis de l'esprit, qui vivent les dons. Non, le signe de maturité, c'est le caractère, c'est pas les dons de l'esprit. Est-ce qu'il faut les négliger pour autant? Non, mais il faut les vivre avec la bonne motivation derrière, avec le bon caractère derrière, et avec le bon but derrière les dons, qui est le bien de tous. Donc ça, c'est le pourquoi. Maintenant, on va s'intéresser au cœur de mon message, le quoi. Quels sont concrètement ces différents dons? 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Et là, il aurait pu continuer parce qu'il y a d'autres dons aussi. Chose importante à savoir quand on lit le mot « don ». Quand on parle de don ici, et les théologiens qu'on a étudiés vont valider ça, on ne parle pas de capacité, on parle d'activité. Voici la différence. Quand on parle de capacité, on pourrait croire que les dons ici sont des dons et talents. On confond souvent dons et talents que Dieu nous donne, avec lesquels on est né et qu'on est appelé à développer. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Il y a des dons ministériels qui sont des dons permanents parce que Dieu met des appels, mais là on parle d'activité, manifestation de l'esprit que Dieu nous permet d'avoir occasionnellement. Ok, super important à le savoir. Pourquoi? Surtout pour le don de guérison, mais ça on le verra par la suite. Donc c'est des activités que Dieu nous permet de vivre à travers son esprit pour bénir d'autres. On est comme un canal que Dieu se sert pour bénir les autres autour de nous. Donc le premier don qu'on voit, c'est la parole de sagesse et de connaissance. Les deux premiers, charismes. Quand je parle de don, je vais interchanger charisme et même cadeau. On pourrait le traduire par cadeau de Dieu. Donc les deux premiers cadeaux, les deux premiers dons, parole de connaissance et de sagesse. Et le don ici, il faut bien faire la différence, ce n'est pas la sagesse ni la connaissance. Le don, c'est la parole annoncée de sagesse et de connaissance. Parce que sinon, ça voudrait dire que tous les érudits et tous les philosophes ont ce don-là. Sauf que non, on ne parle pas de ça. Okay? Et d'ailleurs, quelques chapitres avant, Paul va dire la chose suivante. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La sagesse et la connaissance dont Paul fait mention ici, c'est une sagesse, une connaissance qui te focus sur Jésus, sur la bonne nouvelle de Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour toi. Ça, c'est la sagesse dans ce contexte-là. La parole de connaissance, de sagesse centrée sur Jésus. S'il y a un don qui est amené ici et qui n'est pas dans le sens de la bonne nouvelle de l'Évangile, alors ce n'est pas un don de l'Esprit. Le Saint-Esprit t'amène toujours à Jésus, t'amène toujours à te rapprocher de Jésus, t'amène toujours à la repentance, t'amène toujours à aimer Jésus plus. Donc si un don de l'Esprit te dit l'inverse, c'est pas un don de l'Esprit. Parce que ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est un de ses rôles, en tout cas. Donc basé sur l'Évangile, basé sur le Christ crucifié. Maintenant, quelle est la différence entre la sagesse et la connaissance? Difficile à dire. Certains théologiens vont dire que c'est interchangeable. D'autres vont dire que non, justement, c'est complémentaire. Et j'ai trouvé une définition qui était intéressante, un théologien qui l'aborde, qui dit que la parole de connaissance donne le quoi. La parole de sagesse annonce le comment, un peu plus pratique. Et d'autres vont dire même, la connaissance donne des informations, la sagesse donne des instructions. Donc des informations sur Dieu, sur son plan, sur sa parole, sur qui il est, sur qui on est en lui. Et des instructions, avec la parole de sagesse, sur comment agir selon ce que dit la Bible. Dans telle ou telle situation. Des conseils sur, ok, qu'est-ce que tu devrais faire comme choix à ce moment-là. La parole de sagesse est un peu plus centrée sur ça. Donc ça donne des informations et des instructions. Prochain don, on va enchaîner parce qu'il y a quand même pas mal de dons à voir. Le don de foi. Sam Storm, le théologien, explique qu'il existe trois domaines de foi. La foi qui sauve, qui t'amène au salut, on est sauvé par la foi. La foi qui t'accompagne à chaque jour dans ta sanctification, tu fais confiance à Jésus à chaque jour, tu passes du temps avec lui, tu lis la parole, etc. Et le don de foi. Don de foi qui est différent, qui est aussi occasionnel, comme la plupart des dons ici décrits. Le charisme, cadeau que Dieu nous donne, ne sont pas des capacités, mais des activités. Je le répète, et je vais le répéter encore, parce que c'est important. Des activités occasionnelles et ponctuelles à des moments précis. Sam Storm, encore une fois, dit la chose suivante. En d'autres termes, le don spirituel de la foi n'est probablement pas quelque chose qu'un croyant expérimente de manière constante. Mais il est accordé lors d'occasions spéciales où un degré extraordinaire de confiance dans l'activité de Dieu est requis. Le don de foi, pardon, c'est une confiance dans des moments très difficiles. Et c'est arrivé à mon épouse. En janvier 2016, on n'était pas encore mariés, et on venait de décider la date du mariage. Et ceux qui vont se marier savent que c'est une période où tu es tout excité. Quand tu es jeune, moi j'avais 20 ans, 21 ans, puis j'allais me marier, j'étais super content, puis on préparait l'école biblique, tout ça. Et ma femme est violoncelliste, pour ceux qui savent. Et un violoncelle, ça coûte très cher, ok ? Ça coûtait très très cher, en tout cas, je ne vais pas donner de prix. Ça valait 5 à 6 fois le prix de ma voiture à l'époque. J'avais pas une Ferrari, mais quand même. On commence à préparer le mariage, tout ça, puis à un moment donné, elle m'a confié pour la première fois son violoncelle. Grosse erreur. Ok, je ne suis pas quelqu'un en tout cas, d'habitude, je fais attention, puis là, je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas expliquer dans les détails, venez me voir à la fin si vous voulez l'histoire complète. Mais c'était un samedi matin, j'avais le violoncelle et puis je l'oublie dans un endroit où il ne faut pas l'oublier. Et puis moi je pars, je vais chez elle à ce moment-là, je lui fais à manger, un bon futur mari, je gagne des points pour qu'elle puisse voir qu'elle ne s'est pas trompée de futur mari. Et puis là au bout de 2 heures je me rends compte que j'ai oublié le violoncelle et puis je ne veux pas ces détails mais le violoncelle s'est fait voler. On n'a pas retrouvé le violoncelle. Et au moment où on a appris, oh mince, on a oublié le violoncelle, il faut aller voir s'il est toujours là, on était dans la voiture, et moi j'étais en mode, ok, elle va me tuer. C'est normal, je la comprendrais, je serais d'accord avec elle. Et j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Tu confirmes ou pas, c'est ça? Un petit peu. Et je me souviens, on était dans la voiture, et puis moi, toute la honte, la culpabilité, tout ça, et puis moi je me suis dit, mais c'est son instrument, c'est son appel, c'est son ministère, elle va... Ben voilà, elle va péter un plomb, quoi. Puis moi, je suis là, puis à un moment donné, elle a comme, je pense vraiment avec du recul, un don de foi. Et là, elle me dit, calme-toi. Dieu est souverain. Dieu connaît toutes choses. Et moi, j'entends ça, je fais, mais arrête de rigoler, tu vois, ça va pas ou quoi? Et non, en fait, elle était sérieuse, vraiment. Elle dit, non, Dieu sait toutes choses. Même si on ne retrouve pas, Dieu est au contrôle. Et quand elle a dit ça, ça m'a apaisé. Parce que les dons spirituels sont là pour bénir les autres. Et là, son don m'a béni et m'a vraiment encouragé. Et avec du recul, on a discuté. Elle a dit, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Un don de foi. Occasionnel. Mais c'est vrai. Tu ressens une paix et tu dis, mais c'est, ça ne fitait pas avec le moment. Et c'est ça le don de foi. C'est que tu as une confiance en Dieu à des moments où normalement, tu ne devrais pas avoir confiance. Quand tu es malade, quand tu perds quelqu'un, tu perds ton emploi ou d'autres situations. Un don de foi occasionnel où tu as une confiance en Dieu inébranlable, comme Jésus dans le bateau pendant que les disciples, ils étaient juste affolés. Ça ne venait pas d'elle, mais du Saint-Esprit qui à ce moment-là lui a partagé ce don, lui a partagé ce cadeau. C'est-à-dire là, elle ne pourrait pas claquer des doigts puis avoir un don de foi. C'est dans les moments précis que le Saint-Esprit nous donne. Troisième don, les dons de guérison. Généralement, quand on parle de guérison, on va directement être centré sur les guérisons physiques. Pourquoi les guérisons physiques, visibles ou non, que ce soit un cancer, que ce soit une maladie grave, que ce soit une jambe qui repousse, il y a eu plein de vidéos comme ça qui ont été faites. Et puis Dieu peut le faire. Dieu guérit. Qui croit que Dieu guérit ici? Amen. Amen. On est église de la Pentecôte quand même, il faudrait croire aux... aux guérisons, c'est bon ça. C'est vrai, mais ça ne parle pas que de ça. C'est intéressant de voir que c'est marqué les dons, au pluriel, de guérison. Et puis il y a différents avis là-dessus, mais la plupart des théologiens que j'ai lus disent la chose suivante, et notamment Tisleton, je ne sais pas comment on prononce, Zizelton, en tout cas, je demanderai aux anglophones comment ils prononcent ça. Voici ce qu'il dit. Le pluriel implique différents types de guérison, et que ces types peuvent être soudains ou graduels, physiques, psychosomatiques, ou mentaux. Le recours à des médicaments ou à une action divine plus directe, et des variations qui ne peuvent être définies à l'avance sous un modèle stéréotypé d'attente. Peut-être qu'on n'aime pas lire cette citation parce que nous, on préfère les guérisons instantanées où Dieu guérit, puis on va voir le médecin, puis on témoigne, et puis les gens se convertissent. Ouais, mais peut-être que Dieu veut guérir à travers la médecine aussi. Peut-être que Dieu veut guérir à travers quelqu'un qui est spécialisé dans la relation d'aide, et puis il va t'accompagner à guérir des souffrances que tu as vécues dans le passé. Dieu utilise qui il veut et il le fait comme il le veut. Et ça, c'est aussi une notion de foi, de dire, Seigneur, que tu me guérisses maintenant ou dans 10 ans ou graduellement ou que peu importe comment, Dieu est souverain et le don de guérison peut prendre aussi du temps. Et je le répète, c'est pas une capacité, c'est des activités. Voici là où c'est important pour le don de guérison. Il y a eu différents réveils où on a associé le don de guérison à des hommes de Dieu qui, ah lui, il a le don de guérison, tous ceux pour qui il prie, les gens sont guéris, etc. Ce qui est faux déjà. C'est pas vrai qu'il a prié pour tout, sinon il n'y aurait plus de malades aujourd'hui. Okay, il irait partout dans le monde, dans les hôpitaux, puis tout le monde serait guéri, ce qui est faux. Deuxièmement, c'est que mettre l'emphase sur un homme t'enlève le focus que c'est Dieu qui guérit et que Dieu utilise qui il veut. Il y a des hommes que Dieu veut utiliser plus que d'autres par rapport à la guérison, par rapport à la prophétie, par rapport à d'autres. Ça, Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas un don permanent, ce n'est pas une capacité. C'est une grâce que Dieu nous fait d'être utilisé pour ça. Et toute la gloire revient à Dieu. Tu peux être guéri en priant pour toi-même et tu peux être guéri avec quelqu'un qui prie pour toi. Dieu fait ce qu'il veut. Sam Storm dit la chose suivante. Lorsque l'on demande de prier pour les malades, les gens répondent souvent « Je ne peux pas, je n'ai pas le don de guérison. » Mais si ma lecture de Paul est correcte, le don de guérison n'existe pas. Et attendez la suite, soyez pas choqués maintenant. Si l'on entend par là la capacité donnée par Dieu de guérir tout le monde, de toutes les maladies en toute occasion. Au contraire, l'Esprit distribue souverainement un charisme, donc un don de guérison, pour une occasion particulière. Même si les prières précédentes pour la restauration physique dans des circonstances similaires n'ont pas été exaucées, et même si les prières ultérieures pour la même affliction n'ont pas été exaucées. En résumé, les dons de guérison sont occasionnels et soumis au dessein souverain de Dieu. Ça n'existe pas les guérisseurs de Dieu, ça n'existe pas, c'est juste Dieu qui guérit et qui utilise qui il veut. Super important de s'en rappeler. Les dons spirituels sont des activités et non des capacités. Prochain don que j'aimerais regarder, la prophétie. La prophétie, comme un petit peu la guérison, on peut avoir peut-être des clichés ou peut-être un focus particulier. On associe la prophétie au futur, souvent. Un prophète, ou même, et même des fois, on va les associer aux voyants qui voient l'avenir, etc. C'est pas la même chose, non. La prophétie, ça peut être Dieu qui nous prévient sur l'avenir, ça peut être ça, ça en fait partie. Mais ça peut être aussi des choses qu'il nous dit sur le moment, qui étaient lisibles parfaitement. La preuve avec les prophètes de l'Ancien Testament. Quand on lit soit les petits prophètes, soit les trois grands prophètes, ils annoncent des choses qui vont arriver, mais la plupart du temps, et je dirais même la majorité du temps, c'est en fait des conséquences qui ont été décrites dans la loi de Moïse. Il va dire, vous allez être en exil. Et là, tout le monde dit, ouais, il annonce l'avenir. Non, non, il fait juste relire Deutéronome, qui a dit que s'ils font ce péché-là, ils iront en exil. Intéressant. Ça veut dire que la prophétie, ce n'est pas que pour l'avenir, c'est aussi connaître la parole de Dieu et analyser, avoir une révélation particulière, analyser, ok, Dieu va faire ça parce qu'il s'est passé ça dans le passé, parce qu'il se passe ça en ce moment. Et la prophétie dans ce contexte-là, c'est fait pour encourager, pour instruire, c'est fait pour encourager. C'est comme un peu si par exemple tu reçois un PV, tu reçois une infraction que tu as fait en voiture. Et que là, il y a un prophète qui vient te voir et qui te dit, tu vas recevoir une amende. Ben oui, parce que j'ai fait une infraction. Mais les prophètes font la même chose des fois. Et c'est pas mauvais, c'est juste dire, attention, là tu as fait ça, voici ce qui va arriver. Et voici la solution à ton problème, c'est t'approcher de Jésus, c'est demander pardon, c'est peu importe. Et c'est pas que dans un contexte de repentance, mais c'est dans un contexte où voici ce qui s'est passé, et une révélation particulière, et là Dieu te dit, ok, dis ça à cette personne, ou dis ça à la foule, je vais parler à quelqu'un. C'est pas que l'avenir. C'est aussi par rapport au passé, puis par rapport aux choses naturelles qui peuvent se passer. Gordon Fee, un théologien incroyable, qui dit la chose suivante. Pour Paul, la prophétie consistait en un message spontané, inspiré par l'Esprit, intelligible, délivré oralement dans l'assemblée réunie, destiné à l'édification ou à l'encouragement du peuple. Donc ce n'est pas que l'avenir, c'est aussi l'encouragement, l'instruction. Et comme les autres dons, c'est occasionnel. Et à ne pas confondre avec le don ministériel de prophète. Okay. Juste une petite parenthèse, les théologiens vont dire qu'il y a trois dimensions prophétiques. Quand je dis prophétique, c'est un gros mot, mais c'est un peu plus simple que ce qu'on croit. La première, c'est la dimension prophétique, la mission prophétique de l'Église, qui est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça, c'est toi et moi. C'est ton rôle, c'est ta mission, c'est ma mission. Aller par toutes les nations faire des disciples. Ça, c'est la mission prophétique. Quand on dit prophétique, c'est annoncer. okay, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Ensuite, il y a le don ministériel qui est décrit justement à la fin du chapitre 12, où là il va dire, est-ce que tous sont prophètes ? Non, parce que c'est des appels particuliers, des appels particuliers qui sont décrits aussi dans Éphésiens et même dans Romains. Et après, le don spirituel de prophétie, où là Paul va dire, tous peuvent prophétiser. Le don occasionnel, c'est pour tout le monde. Dieu peut utiliser qui il veut pour le don prophétique, pour le don spirituel de prophétie. Mais par contre, l'appel prophétique, ça c'est Dieu qui choisit des personnes particulières et qui ont son don d'une manière permanente. Admettons, Mathieu, RP, Anne, moi, Michel, on a le don d'enseigner, un don permanent. C'est-à-dire que peu importe l'horaire, si vous appelez RP à 2h du matin, il pourra vous prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, il sera capable, il sera prêt. Par contre, si vous lui demandez d'avoir un don de prophétie, ce n'est pas sur commande. Ça, c'est Saint-Esprit qui donne, c'est Saint-Esprit qui ordonne. Je dis ça parce que quand j'étais au Québec, j'étais à l'église de Nouvelle-Ville, puis j'étais pasteur de garde. Chaque jour, il y a un pasteur qui était là pour prendre les appels. Et il y a une dame du sud de la France qui appelle une église au Québec, je ne sais pas pourquoi. Et elle me dit « Oui, bonjour », elle m'explique une situation. Elle me dit « Mais je vous appelle pour vous me donner une parole de connaissance. » Et là, moi, je suis là, je fais « Ben, non ». C'est pas moi qui décide en fait. Les dons spirituels comme ça, je peux vous donner une parole basée sur la Bible, et parole de connaissance, sagesse, comme on l'a vu, c'est basé sur la Bible aussi, mais je peux pas le commander. C'est pas une machine à sous. C'est pas tu mets une pièce, t'as une parole, tu choisis, ok, guérison, miracle. Non, ça marche pas comme ça. Le Saint-Esprit dispose comme il le veut, comme il le souhaite. Là où nous, on peut favoriser ça, c'est sur notre disposition de cœur et nos motivations, mais on le verra à la fin dans le comment. Et c'est pas grave s'il y a un don que t'as pas. C'est pas grave si tu l'as jamais pratiqué. On est là pour se complémenter. Et Mathieu l'a dit. On n'est pas là pour dire hey, mon don est meilleur que le tien. D'ailleurs, c'est pas à toi, c'est à Dieu. Mais on n'est pas là pour dire hey, Dieu m'utilise mieux que toi. Non, non, non. On est tous là pour se complémenter et là pour être focus sur le corps, pour encourager les autres qui sont autour de nous. Prochain don, le parler en langue. Et là, il va mettre une emphase particulière, notamment en chapitre 14, mais c'est Raymond Pierre qui va aborder ça. Pourquoi ? Parce que l'Église était focus là-dessus, sur le parler en langue. Et dans notre mouvement, on trouve ça aussi important. Il y en a certains qui pensent que c'est justement le signe initial qui prouve que t'as l'Esprit qui habite en toi. Nous, c'est pas exactement ce qu'on croit. On croit plutôt que c'est un signe évident. Si t'as le parler en langue, et si ça te pousse à suivre Jésus, ça montre que le Saint-Esprit habite en toi. Mais c'est pas le seul don qui peut être évident, c'est pas le seul don qui montre que t'as le Saint-Esprit en toi. Les fruits de l'Esprit le montrent aussi. Mais ça peut être aussi un don spirituel de prophétie, parole de connaissance ou autre. Je connais des gens qui parlent pas en langue et qui pourtant amènent des paroles de connaissance. C'est possible. Il n'y a pas de focus particulier dans la Bible. Et souvent ça, on l'a parce qu'on confond le parler en langue dans Actes 2 à la Pentecôte et le parler en langue que Paul décrit ici. C'est pas le même. Et Sam Storm va le dire. Il est donc clair que les langues que Paul envisageait de donner aux chrétiens de Corinthe n'étaient pas identiques aux langues données à la Pentecôte. Il s'agissait en fait d'une espèce ou d'un type de langue différent, à savoir le type de langue qui ne peut être compris par aucun être humain. Alors que Actes 2, c'était des langues connues, qui étaient comprises par d'autres peuples. Par aucun être humain, à moins qu'il ne soit surnaturellement autorisé à comprendre au moyen du don spirituel de l'interprétation. Donc 1 Corinthiens 12, c'est des langues inconnues. Et quel langage ? Il y en a plein qui ont efforcé, qui ont étudié la parole pour savoir, ok, est-ce que c'est la langue des anges, est-ce que c'est le langage du ciel, de Dieu ? En fait, il n'y a presque aucun élément qui pourra nous donner cette information-là. Peut-être parce que c'est pas si important que ça. Peut-être. Il y en a qui disent que c'est Dieu, que c'est le langage qu'on parlera au ciel, ou peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est ce que Sam Storm va dire. Votre discours en langue, que ce soit dans la prière ou en louange, parce qu'on peut aussi apporter des chants en langue, quand il va dire chanter par l'esprit, la prière ou la louange est une gratitude authentique envers Dieu. Cela a un sens parfait pour Dieu. Il est honoré par votre expression d'action de grâce, même si votre esprit est infructueux. Même si on ne parle pas avec notre intelligence, on est en train de louer Dieu. On est en train de dire des merveilles qu'on ne comprend pas. Mais bizarrement et spirituellement, ça nous fait du bien. C'est ce que la Bible nous dit. On s'édifie soi-même à travers le parler en langue, sauf s'il est interprété et là, on bénit l'ensemble. Mais ça, c'est RP encore une fois. Je te cite beaucoup en ce moment, RP. Mais c'est toi qui vas l'aborder au prochain message. Je me déverse sur toi. Ça reste un mystère. Mais c'est quelque chose qui vient nous bénir, qui vient nous édifier nous-mêmes. Personnellement, moi, c'est une arme pour la prière et pour louer. Combien de fois tu te lèves le matin, t'as pas les mots, et là tu dis ok, je veux juste adorer Dieu en langue, je comprends pas ce que je dis, mais je sais que je suis en train de l'adorer. Et après, petit à petit, les mots viennent, après, petit à petit, t'es focus sur lui. C'est une arme incroyable. Encore une fois, pas beaucoup d'infos, on peut pas en faire une doctrine de ça. On sait que Paul nous dit de parler en langue, de rechercher ce don en tout cas, et de le mettre en pratique, mais on peut pas en faire une doctrine de voici c'est quoi, voici ce que tu dois ressentir, etc. Et même les autres dons, c'est compliqué. On peut pas savoir, ok, moi par exemple, quand j'ai une parole ou autre, j'ai mon cœur qui chauffe. Mais peut-être que vous, ça va être des frissons différents. Dieu utilise le langage qu'il veut pour vous parler et vous dire que vous avez une parole à ce moment-là, peu importe. Dernier don qu'on va voir ensemble, et non pas le moindre, le discernement des esprits. Juste vous dire, on n'a pas vu don des miracles et interprétation des langues, parce que je voulais vraiment être focus sur ces dons-là. Le discernement des esprits. Un don primordial pour l'église de Corinthe. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de faux prophètes qui venaient. Plein de faux prophètes qui venaient, qui essayaient de détourner l'église de la bonne nouvelle de Jésus. Et il y en a certains, c'est facile à les démasquer. C'est facile. Moi, je me souviens, à l'école biblique, en étant en cours, et puis il y a un étudiant qui avait ramené une petite affiche avec prophète, tatati, tatata. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui s'appellent prophètes, c'est eux qui s'autoproclament prophètes. Bizarre, alors que la Bible dit non, c'est aussi l'Église qui doit reconnaître ça. Et il arrive, puis une affiche prophète, et puis là, c'est « Paye 60 euros la conférence, et tu seras marié dans 3 mois. » Et là, j'ai regardé tous mes amis célibataires, je fais « Allez-y les gars, allez-y !» Incroyable, 60 euros pour être marié dans 3 mois, ça va. Peut-être une formation rapide, de formation couple avec RP à la suite, ou je sais pas. Mais c'est incroyable. Faux prophète. Je suis désolé. Mais faux prophète, c'est pas vrai. Là, c'est la théologie de la prospérité qui est déguisée derrière. Ah, viens, viens, tu réponds à un besoin, tu veux te marier, paye-moi 60 euros, puis je vais te dire, et dans 3 mois, tu vas être marié. Non, faux prophète. C'est pas ce que Jésus a enseigné. La Bible n'est pas en face là-dessus. Et tout ce qui est prospérité, tous ceux qui disent que, en fait, la prospérité, c'est on est revenu au temps de la réforme où les gens payaient des indulgences pour être sauvés ou pour sauver des membres de leur famille qui étaient morts. C'est ça les indulgences. Et c'est pour ça que Martin Luther a juste dit non, c'est pas possible, c'est pas ce que la Bible enseigne. Et la théologie de la prospérité, ça ressemble un petit peu à ça. C'est dire, donne des sous à l'église, tu vas être béni. Donne des sous à l'église et tu seras guéri. Donne des sous à l'église et tu vas devenir riche. Sauf que la plupart des gens qui disent ça, c'est des pasteurs qui roulent en Mercedes, en Ferrari, qui prennent l'avion pour se déplacer. Je suis pas là. Je suis là. Si je suis là un petit peu pour dénoncer, c'est vrai. Je suis en train de le reconnaître. Mais c'est vrai, mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit pas, donne des sous, tu vas être béni. Non, 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 c'est pas vrai. Elle dit, sois généreux, mais t'attends rien en retour. Dieu va prendre soin de toi et des fois, tu seras béni, mais pas forcément matériellement. Parce que c'est pas ça la plus grande des richesses. La Bible, la plus grande des richesses, dit que c'est la richesse qu'on a au ciel. Et ça ne veut pas dire qu'on vit rien sur terre. Non, non. Mais sa paix, sa présence, sa fidélité, ça, c'est la plus grande des richesses qu'on peut avoir sur cette terre. Amen. Et l'église de Corinthe accueillait justement des gens, des faux prophètes par exemple, ou même des gens qui avaient un passif démoniaque, qui avaient touché à certaines choses. Et c'est intéressant, j'ai étudié un petit peu le contexte de l'époque, et il y en a qui disent qu'il y a des gens qui avaient un passif démoniaque, et à cette époque-là, puis même encore aujourd'hui, les démons avaient un parler en langue. Il y a des gens qui sont possédés qui parlent en langue. Et ce don-là est super important, parce que là il dit justement... Demander et puis rechercher justement le don du discernement. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a du parler en langue en ce moment qui n'est pas biblique, qui n'est pas de Dieu. Et ça, c'est super dur. Et là, il faut de l'aide de Dieu. Là, il faut de l'aide de Dieu pour discerner et pour ensuite reprendre et après ramener à Jésus. Mais il y a d'autres choses un peu plus subtiles, je pense qu'on a pas mal tous vécu. C'est discerner, est-ce que la pensée vient de moi ou est-ce que la pensée vient de Dieu ? Et là, je pense qu'on s'est tous fait avoir au moins une fois, c'est sûr. C'est tous fait avoir au moins une fois. Moi, je me souviens, il y a 7-8 ans, je vivais une période où Dieu m'utilisait pas mal par rapport aux paroles de connaissance, paroles de sagesse, tout ça. Et j'étais dans une période où je pensais vraiment que Dieu pouvait m'utiliser chaque jour pour ça. Et j'étais au travail, en voiture, avec mon collègue qui conduisait. Et on avait rendez-vous à un logement. Je faisais du diagnostic immobilier, pardon. Donc, on devait aller dans un logement. Et puis là, on trouvait pas... le GPS marchait pas, puis on trouvait pas l'endroit. Et puis là, il dit, mais où est-ce que je vais ? Est-ce que je vais ? Et puis moi... En bon pentecôtiste charismatique, je me dis, ok Seigneur, dis-moi, droite, gauche, tout droit. Et là, je ressens vraiment, va à droite. Et là, je fais, à droite, à droite. Et là, il tourne, bam, sens interdit. Et là, je fais, mais pourtant j'ai ressenti le truc, je pensais vraiment que c'est incroyable. Je lui ai pas dit que j'avais prié pour ça, je lui ai pas dit. Je pensais vraiment avoir reçu une parole prophétique pour mon collègue à côté de moi, mais non. Complètement dans l'erreur, sans interdit. Et je pense pas que l'esprit te pousse à être illégal sur la route. Je ne pense pas. Mais des fois c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que c'est un apprentissage discerné. C'est un apprentissage de est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Dieu? Et puis je me souviens, j'ai discuté avec Thierry de son gars il y a quelques années qui était venu au groupe de jeunes et il disait, même lui, après 40 ans de vie chrétienne, c'est encore compliqué de savoir si c'est Dieu ou si c'est toi, si c'est tes pensées, tes désirs, c'est compliqué. Et à cause de ce conflit-là, à cause de ce défi-là, il faut absolument, et moi je m'efforce d'avoir une attitude d'humilité quand on apporte un don. Parce qu'on peut tous se tromper. Et là, c'est très personnel. Mais moi, j'ai banni de mon vocabulaire les « Dieu m'a dit » et « Ainsi parle l'Éternel ». Et là, vous allez dire « Ouais, mais pourquoi ?» Pourquoi ? Parce que ça met une pression sur les gens. Ça met une pression et en plus, on a cette illusion qu'on aura plus d'autorité avec une formulation comme ça. Parce que c'est les prophètes dans l'Ancien Testament qui l'utilisaient. Savez-vous que les prophètes dans l'Ancien Testament, s'ils se trompaient, on leur coupait la tête ? Je n'utilise pas cette formulation à cause de ça aussi. Je ne veux pas finir décapité. Non, ce n'est pas pour ça. Mais on peut se tromper et on se doit d'avoir une attitude d'humilité. Moi, j'aime énormément Anita quand elle apporte des dons. J'aime énormément. J'aimerais soumettre cette pensée que je pense avoir reçue. Je connais par cœur parce que j'aime trop. Mais j'aime parce qu'elle se met en position de vulnérabilité et je peux me tromper. Mais c'est notre rôle après d'examiner les prophéties. C'est notre rôle après de dire, ok, de retenir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et c'est justement ce que un Thessalonicien m'a dit. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Moi, je me souviens, je travaillais avec une amie dans le ministère et elle avait l'habitude de dire souvent l'expression « on avait à cœur de ». Ce qui est correct. On a des choses à cœur et puis on le partage, tout ça. Sauf qu'elle l'utilisait tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Puis des fois, pour des décisions qu'on avait prises en staff où on n'avait pas forcément un cœur, mais on pensait que c'était la meilleure décision. Et au fur et à mesure, on rencontrait des gens pour leur proposer des rôles de leadership, des implications, tout ça. Et elle utilisait toujours cette pensée. Et à un moment donné, je lui ai dit, non, je pense qu'il faudrait changer de formulation. Pourquoi ? Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, si tu as reçu à cœur, c'est que ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, pourquoi la personne devrait refuser ? Ça vient de Dieu. Là, c'est des petits détails. Mais combien de personnes ont souffert d'un « Dieu m'a dit » ? Exemple concret. Combien de personnes ont souffert de « Dieu m'a dit que je devais être marié ». Moi, quand j'avais 16-18 ans, tous les 3 mois, j'avais à cœur de me marier avec une fille. Alors, j'ai réfléchi, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Soit Dieu acceptait la polygamie, soit je me trompais. Après réflexion, j'ai voté pour la deuxième option, quand même. Mais combien de personnes ont été blessées par ça ? Dieu m'a dit, ainsi parle l'Éternel. Non, peut-être qu'on peut se tromper. Et puis, ce serait bien de le mettre aussi en pratique quand on apporte des dons. On peut se tromper. Maintenant, je vais appeler la louange, j'aimerais bien vouloir revenir. Je pense que plus on examine, plus on s'efforce d'examiner les prophéties, les dons, plus Dieu va nous utiliser pour ça. On ne peut pas prier pour « Seigneur, donne-moi ce don-là, puis tu l'as ». Non, non. Mais par contre, il y a des choses à mettre en pratique où Dieu va nous utiliser un peu plus dans ce domaine parce qu'on recherche, parce qu'on est disposé à. Puis le dernier point, c'est justement comment. Comment les recevoir. Comme j'ai dit au début, l'Esprit dispose comme il le veut. Ça ne change pas. Mais notre responsabilité, c'est notre disposition de cœur. Mathieu en a un petit peu parlé par rapport aux 4 boosters de l'unité, d'acceptation, etc. Notre disposition de cœur. Parce que Paul va dire au verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. » Mais comment y aspirer ? Pendant des années, moi, j'aspirais aux dons parce que j'avais l'impression que ceux qui amenaient des dons, ils étaient mis en avant, ils étaient un peu plus cool que moi. Parce qu'on mettait ça en avant, parce que comme notre focus était plus sur le don lui-même que sur les gens, Ah ben je recherchais ça, je fais Seigneur utilise-moi parce que c'est fou, tu ressens une parole de Dieu. Et en fait Dieu m'a jamais utilisé à ce moment-là quand j'avais cette disposition de cœur. Après j'ai changé de disposition. Ce que j'ai remarqué dans ma propre vie, c'est que plus je prie pour les gens, plus je les aime et plus Dieu m'utilise à travers les dons spirituels. Et quand on parle d'aspirer aux dons les meilleurs, comme j'ai dit, c'est pas une liste exhaustive, c'est une liste de dons spirituels que l'Église avait besoin à ce moment-là. Et quand Paul dit ça, il est en train de dire aspirer aux dons qui vont le plus servir l'Église à ce moment-là. Ce qui veut dire que tu es obligé d'être focus sur les gens. Ce qui veut dire que tu es obligé de connaître ton Église. Ce qui veut dire que tu es obligé de connaître le besoin des gens. Faut que tu t'apprennes à les aimer, faut que tu apprennes à les connaître. Il faut que tu sois focus sur eux. Et ça c'est la bonne disposition de cœur. La bonne question, c'est pas Seigneur, quel don veux-tu me donner, mais plutôt Seigneur, qui veux-tu que je serve aujourd'hui? Le focus n'est pas sur le don, mais sur la personne destinataire du don. Faut pas aimer le don plus que les gens. Beaucoup font cette erreur-là. Faut pas aimer le don plus que les gens. Le don, c'est un cadeau que tu offres à quelqu'un. Aussi simple que ça. Le don est un moyen d'aimer concrètement l'Église ou la personne destinataire du don. C'est un moyen d'aimer. Et Anne va en parler dans 2 semaines, justement, le chapitre 13, l'amour. Donc je pense que, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, à la lumière de tout ce qu'on vient de lire, de ce que Paul enseigne, il y a des dons qui sont là pour bénir les autres, qui sont là pour bénir l'Église. Et je pense que notre rôle, nous, c'est de prier pour « Seigneur, viens nous remplir, on va être utilisé par toi. Mais Seigneur, apprends-moi à aimer les gens. Donne-moi ton amour pour eux. Donne-moi les aimer encore plus. » Et je pense qu'au plus on va aimer les gens, au plus Dieu va nous utiliser à travers les dons spirituels. Le but, c'est pas le don. Le but, c'est d'aimer les gens, les encourager. Et le don est un moyen pour ça. La passerelle, c'est une des passerelles. On va se lever ensemble. Je vais juste proposer qu'on va en prendre un dernier chant. Deux prières ce matin, comme j'ai dit. On va prendre ce chant, puis on va prier, Seigneur, viens me remplir. On a besoin chaque jour d'être rempli de l'Esprit. Chaque jour d'être renouvelé. Chaque jour de vivre quelque chose avec le Saint-Esprit. Pas pour une expérience personnelle qui va juste nous faire du bien. Parfois, ça nous fait du bien, puis c'est bien. Mais aussi pour bénir les autres. Et deuxième prière, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, je veux avoir la bonne motivation, la bonne disposition de cœur quand j'apporte un don. Je veux aimer les gens. Je veux vraiment me soucier de mon voisin. Je veux vraiment me soucier de la personne qui souffre en ce moment et qui a besoin d'une parole d'encouragement. Je veux vraiment me soucier de la personne qui est là et qui a besoin du don de libéralité. Je veux vraiment me soucier de la personne qui est là et qui a besoin d'une parole de sagesse pour être dirigée, pour être conseillée dans les choix qu'elle a à faire. Seigneur, aide-moi à aimer les gens. Qu'on fasse ces deux prières pendant ce chant. Alors qu'on prend ce chant ensemble. Amen. Autorité, royaume. prions ensemble, Seigneur. Seigneur, viens me remplir, Seigneur. Viens me renouveler dans ton esprit, Seigneur. J'ai besoin de toi. Viens me remplir. Tu veux que je vive des choses, Seigneur. Il y a plus pour moi. Il y a plus, Seigneur, pour ma vie spirituelle. Il y a plus, Seigneur, pour le fait que je puisse bénir d'autres personnes. Viens, Seigneur, tu veux m'utiliser. On l'a vu, les dons spirituels, c'est pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et tu donnes comme tu le souhaites. Mais on veut être disposé à les recevoir, Seigneur. Viens nous remplir. Donne-nous, Seigneur, des dons spirituels. On veut être une église vivante où ton esprit parle, où ton esprit agit, où ton esprit relève, où ton esprit instruit à travers nous, où ton esprit enseigne, encourage. Reprends, Seigneur, viens nous remplir de toi, Seigneur, que chacun puisse se rechercher à être rempli de Dieu. Seigneur, viens, on a un cœur ouvert, on veut juste être rempli de toi, on veut juste être une église au service des autres, au service de mon prochain, de mon voisin, au service de ceux qui ne t'aiment pas encore même, Seigneur. Viens nous remplir de toi, on a besoin de toi, c'est pas des capacités humaines, Seigneur, mais c'est des manifestations de ton esprit à travers nous. Alors viens, Seigneur, donne-nous, Seigneur, des paroles pour prêcher l'évangile, donne-nous des paroles pour encourager, donne-nous des paroles, Seigneur, pour reprendre quand il le faut, pour conseiller, pour diriger, Seigneur, donne-nous des paroles de foi, des dons de foi, des dons de guérison. Viens, Seigneur, et tu nous utilises pour guérir aussi, Seigneur. Viens nous donner le don de discernement, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, protéger l'Église, pour qu'on puisse édifier l'Église. Viens, Seigneur, nous remplir. Viens, Seigneur, on a besoin de toi. Faites cette prière, chacun, là où vous êtes. Cherchez à être rempli de Dieu. Cherchez à être renouvelé de l'Esprit de Dieu. Viens le faire, Seigneur, alors qu'on continue de chanter ensemble. Viens nous remplir, Jésus. Alléluia, merci à Jésus parce qu'il veut se servir de nous encore cette semaine, chacun d'entre nous, aspirer à servir, à être à l'écoute de gens sur lesquels Dieu pourrait mettre sur votre route et d'être sensible à ce qu'il veut faire au travers de vous. Amen. Amen. Pour ceux et celles qui auraient besoin de prière, on en a parlé tout à l'heure, c'est nouveau. Alors n'hésitez pas, là, s'il y a des gens, vous avez été interpellés, challengés par une chose ou une autre dans cette célébration et que vous sentez que vous avez besoin qu'on prie pour vous, n'hésitez pas à tranquillement aller au niveau du piano et puis l'équipe va se retrouver, elle va être là pour prendre du temps avec vous et puis pour les autres, profiter de koinoniser entre vous, d'échanger, de parler, etc. Mais plutôt vers le hall d'accueil. Voilà, un bon dimanche à chacun, chacune, gardez ce que vous avez reçu et on s'attend encore au Dieu des miracles. Amen. Bon dimanche.